Chapitre 10. Parangon, des luttes chances. Althea faisait le guet au sommet du mât quand apparurent les voiles de Vivacia. Ces voiles, elle ne pouvait distinguer du navire que ces voiles, blanches sur le ciel menaçant. Parangon était tapis dans une anse avec une vue dégagée du chenal juste à la sortie de partage, mais Vivacia n'avait pas encore doublé le goulet. Brachen avait étudié ces fragments de cartes et parié que c'était par là que Vivacia rejoindrait Partage, en supposant que Kenith revenait de l'île des autres. Brachen avait deviné juste. Même avant d'avoir aperçu la coque ou la figure de proue, Althea reconnut la mâture et les voiles. Durant un moment, cette vision si longtemps attendue la laissa sans voix. À plusieurs reprises au cours de cette dernière semaine, elle avait repéré des navires qu'elle avait pris pour Vivacia. Deux fois, elle avait même appelé Brachen en haut du mât pour le consulter. Mais elle s'était trompée, les deux fois. Maintenant, en scrutant le gréement familier qui apparaissait, elle en était certaine. Et il s'agissait bien de son navire. Elle le reconnaissait, aussi sûre qu'elle aurait reconnu le visage de sa mère. Elle n'avertit pas en criant, mais descendit du mât à toute allure et vola sur le pont. Elle fit irruption sans frapper dans la chambre de Brachen. Il était au lit, il dormait après son quart de nuit. « C'est elle, au sud-ouest, comme tu le pensais. Pas d'erreur cette fois-ci, c'est Vivacia !» Il ne mit pas en doute son affirmation. Il respira à fond. « Alors c'est le moment. Espérons que Kenith est aussi intelligent et rationnel que tu le crois. Autrement, nous tendons nos gorges à un boucher. » Elle le regarda fixement, muette. « Excuse-moi, » reprit-il d'une voix rauque. Je n'avais pas l'intention de dire ça. Nous avons tous les deux mis ce plan au point. Nous avons convaincu l'équipage que ça marcherait. Ne crois pas que tu aies bon dos. Elle secoua la tête. Tu ne fais qu'exprimer tout haut ce que je pense depuis trop longtemps. D'un côté comme de l'autre, Brachen, tout est de mon fait. Si ce n'était pour moi, ce navire et son équipage ne seraient pas ici, sans compter qu'on n'aurait jamais envisagé ce plan insensé. Il la prit dans ses bras, l'étreignit avec rudesse. L'odeur de sa peau nue monta aux narines d'Althea, ses cheveux détachés caressèrent sa joue. Elle se frotta le visage contre la poitrine chaude. Pourquoi était-elle prête à tout risquer? Pourquoi jouer avec la vie de cet homme, avec sa propre vie, dans cette folle entreprise? Il la relâcha, attrapa sa chemise sur une chaise. En l'enfilant, il redevenait le capitaine. « Va hisser le pavillon parlementaire. Je veux que l'équipage ait ses armes à portée de main, mais pas en évidence. Rappelle-leur que nous nous proposons d'abord de discuter avec Kenith. On ne l'appelle pas à l'abordage. Au premier signe d'agressivité de sa part, on lui rend la monnaie de sa pièce. » Elle se mordit la langue pour s'empêcher de répondre qu'il était inutile de leur rafraîchir la mémoire. On leur avait bien enfoncé cela dans la tête. Débarrassée de la voie et de ses manœuvres subversives, elle était plus sûre de ses hommes. Ils obéiraient. Qui sait? Dans quelques heures, elle se retrouverait sur le pont de la Vivacia. Qui sait? Elle bondit pour transmettre les ordres.
Là-bas, commandant, vous le distinguez maintenant?
Gankis montrait du doigt et plissait les yeux comme pour aider le capitaine à mieux voir.
Le navire est mouillé près de la plage. Il compte sans doute qu'avec la côte et les arbres derrière lui, on aura du mal à le repérer, mais je l'ai...
Je le vois,
interrompit Kenith sèchement.
Continue ton travail.
Il scruta les mâts et le gréement. Une étrange certitude l'envahit. La vieille vigie s'éloigna, le ton de son capitaine avait rabattu son exaltation. Le vent glacial souffla à ses oreilles. Le navire piqua du nez dans la lame, mais Kenith se sentit soudain détaché de tout ce qui l'entourait. Ce navire, c'était Parangon. Dans l'anse, se balançait à l'ancre l'autre moitié de son âme.
« Comment puis-je le reconnaître à cette distance ?»
se demanda-t-il doucement.
« Est-ce une sensation dans l'air? Une odeur dans le vent ?»«
Le sang appelle le sang !»
murmura le charme à son poignet.
« Tu sais que c'est lui. Il t'est revenu. Après toutes ces années, il t'est revenu. »
Kenith voulait respirer, mais ses poumons étaient lourds et saturés. L'effroi et l'impatience luttaient en lui. parler de nouveau à ce navire, fouler ses ponts, ce serait revenir au point de départ. Toutes les défaites passées, la souffrance serait noyée dans ce triomphe. Le navire se réjouirait que Kenneth ait réussi, grandi et... Non, ce ne serait pas ainsi. Ce serait l'affrontement et l'accusation, l'humiliation et la honte. Ce serait ouvrir la porte à tous les chagrins passés, les laisser se déverser pour empoisonner le présent. Ce serait regarder en face un être bien-aimé qu'on a trahi. Ce serait admettre ce qu'il avait fait pour assurer égoïstement sa propre survie. Pire, ce serait public. Tous à bord sauraient qui il avait été, ce qu'on lui avait fait. L'équipage du Parangon saurait. Éta et Yémin sauraient. Foudre saurait, et personne ne le respecterait plus. Tout ce qu'il s'était appliqué à construire, toutes ses années de travail seraient ruinées. Il ne pouvait pas laisser faire. En dépit des hurlements dans sa tête, il ne pouvait pas laisser faire. On ne change pas le passé. L'enfant battu qui demandait grâce, il faudrait le réduire au silence encore une fois. Une dernière fois, il fallait effacer de la mémoire du monde le gamin poltron et servile. Yola arriva en courant.
« Commandant, ce navire que la vigie a repéré, ils ont déployé un pavillon, un grand pavillon blanc, le pavillon parlementaire. Ils ont dérapé et se dirigent vers nous. »
Son excitation retomba devant le regard sinistre de Kenneth.
« Que fait-on ? »
demanda-t-il à mi-voix.
« Je flaire un mauvais tour. Le message de Faldin m'en a averti. Je ne me laisserai pas endormir. Si nécessaire, je ferai un exemple. Si c'est une perfidie, j'enverrai ce navire par le fond, corps et biens. »
Il regarda Yola bien en face.
« Prépare-toi à entendre beaucoup de mensonges aujourd'hui, Yola. Ce capitaine-là est un homme très intelligent. » Il essaie de se servir d'une vive nef pour en prendre une autre. Évidemment, pas question de laisser faire.
Subitement, sa gorge se serra de douleur. La terreur monta en lui. Si Yola se tournait vers lui maintenant et voyait ses yeux se remplir soudain de larmes.
Les sentiments changent,
se rappela-t-il farouchement.
C'est l'étouffement d'un petit garçon. Les larmes d'un petit garçon qui n'existe plus. J'ai cessé de ressentir depuis longtemps. Je ne ressens plus rien.
Il toussa pour dissimuler sa faiblesse passagère.
« Que les hommes soient parés !»
ordonna-t-il avec calme.
« Fais virer et mouille. Hisse aussi notre pavillon blanc pour qu'il s'approche en confiance. On va faire mine d'être dupe. Je dis au navire d'appeler les serpents. »
Il montra les dents dans un simulacre de sourire.
« Je doute que Trell soit au courant pour nos serpents. Qu'ils parlementent donc avec eux. »« À vos ordres, commandant !»
Et Yola disparut promptement. Kenneth s'avança. Le tapotement de son pilon lui parut assourdissant. Les hommes le dépassaient et le contournaient précipitamment, chacun rejoignant son poste. Personne ne s'arrêta pour le regarder. Personne ne le voyait plus réellement. Il ne voyait que Kenneth, le roi des îles des pirates. N'était-ce pas ce qu'il avait toujours voulu? Être vu tel qu'il s'était fait lui-même? Pourtant, il imaginait Parangon brailler de détresse à la vue de sa jambe amputée ou s'extasier sur la coupe élégante de sa veste de brocart. Le triomphe n'est pas aussi éclatant quand on le partage seulement avec ceux qui se sont toujours attendus à votre succès. Sur toutes les mers, par toute la terre, et il n'y en avait qu'un seul qui sache vraiment ce que Kenneth avait subi pour atteindre ses sommets. Un seul qui puisse comprendre l'éclat de son triomphe présent et l'infernale profondeur de son malheur passé. Un seul qui puisse trahir aussi complètement son passé. Il fallait que Parangon meure. Il n'y avait pas d'autre issue. Et cette fois, Kenneth devrait s'en assurer absolument. En grimpant l'échelle qui menait au gaillard d'avant, il constata avec consternation qu'Éta et Yémin l'y avaient précédé. Le garçon, appuyé à la lisse, était manifestement en grande conversation avec la figure de proue. Éta regardait simplement Parangon, une étrange expression sur le visage. Le vent qui se levait jouait avec ses cheveux noirs. Il atteignit le gaillard d'avant et mit sa main en visière pour suivre la direction de son regard. Le parangon approchait régulièrement. Kenneth pouvait déjà distinguer la figure de proue familière. Son cœur se serra à la vue du visage cruellement mutilé. Une honte cuisante fit place à un accès de fureur. On ne pouvait le lui reprocher. Non, personne, pas même Parangon, ne pouvait le lui reprocher. La faute d'Ygrotte, tout était la faute d'Ygrotte. L'horreur glacée s'étendit jusque sur la mer et le brûla. Le sang lui monta au visage. Étourdi par l'épouvante, il porta une main tremblante à son visage.
Tu l'as laissé se charger de toute la souffrance, lui souffla le charme à l'oreille. Il a dit qu'il le ferait, et tu l'as laissé faire.
La petite figure sourit.
Tout est encore là qui t'attend, avec lui.
Tais-toi,
ordonna Kenneth d'une voix grinçante. De ses doigts tremblants, il essaya de détacher cette odieuse chose de son poignet. Il allait jeter la mulette par-dessus bord. Elle coulerait et disparaîtrait à jamais, avec tout ce qu'elle savait. Mais ses doigts étaient bizarrement gauches, presque gourds. Il n'arrivait pas à dénouer les liens de cuir. Il tira sur le charme, mais les lanières tenaient bon.
« Kenneth, Kenneth, tu vas bien ?»«
Putain stupide !» Toujours à poser les mauvaises questions au mauvais moment.
Et il fit un violent effort pour dominer son émotion. Il sortit son mouchoir et épongea la sueur de son front glacé. Il retrouva la parole.
« Certes, je vais tout à fait bien. Et toi ? Tu avais l'air si... Pendant un instant, j'ai cru que tu allais t'évanouir. »
Etta le dévisagea attentivement, cherchant à déchiffrer son expression. Elle voulut lui prendre les mains. Pas question. Il lui adressa son petit sourire habituel. Il faut la distraire.
Le gamin,
fit-il à voix basse avec un signe de tête en direction de Yémin.
Il se peut que ce soit dur pour lui.
Comment va-t-il?
Il est déchiré,
répondit-elle aussitôt. Un autre que lui aurait pu prendre ombrage de la facilité avec laquelle il avait détourné l'attention d'Etta sur Yémin. Mais elle n'était qu'une putain, après tout. Elle soupira.
Il fait tout ce qu'il peut pour provoquer une réaction du navire. Il lui demande avec insistance de réagir comme Vivacia. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Maintenant, il cherche une émotion que pourrait susciter la présence d'Althea. Mais le navire ne lui livre rien. Quand il lui a rappelé ta promesse de ne pas faire de mal à Althea, Foudra rit en disant que c'était toi qui avais promis, pas elle. Il a été touché en plein cœur quand elle a déclaré qu'un accord passé avec toi n'était pas une promesse qui lui était faite à lui.
Elle baissa encore la voix.
Si toi tu lui confirmais que tu tiendras parole, ça le rassurerait.
Kenneth haussa une épaule en signe d'impuissance.
Je tiendrai parole autant que possible. C'est ce que je lui ai dit. Parfois les gens sont décidés à se battre jusqu'au bout et alors, que peut-on faire? Il ne s'attend tout de même pas à ce que je me laisse tuer afin de tenir ma promesse.
Durant un instant, Etta se contenta de le regarder. Elle parut sur le point de dire quelque chose, mais elle n'émit pas un son. Enfin, elle demanda à mi-voix.
« Ils ont hissé le pavillon blanc. J'imagine que ça pourrait être une ruse. Mais tu vas essayer de tenir parole. »
Il pencha la tête vers elle.
« Quelle question ! Et bien entendu !»
Il lui adressa un sourire plus chaleureux, lui offrit le bras. Elle l'accompagna à la lisse.
« Si les choses commencent à se gâter, fie-toi à ton jugement. Si tu pressens que la situation ne se présente pas selon le désir de Yémin, emmène-le en bas, » dit-il tout bas. « Trouve un prétexte, une distraction, n'importe quoi. »
Elle lui jeta un bref coup d'œil.
« Ce n'est plus un enfant tout de même, pour oublier un jouet quand on lui en agite un autre sous le nez.
« Comprends-moi bien. Je me borne à dire ce que nous savons parfaitement tous les deux. Tu es très capable de distraire n'importe quel homme. Quoi que tu te sois obligé de faire, je ne t'en voudrais pas. » Je ne compte pas que tu lui fasses oublier que sa famille est engagée dans l'affaire, mais il ne faut pas qu'il assiste directement à tout ça. »
Voilà. Difficile d'être plus clair, sauf à lui ordonner carrément de séduire Yéma. Sa savait que cette femme avait assez d'appétit pour deux hommes. Dernièrement, elle s'était montrée insatiable. Elle devrait être capable d'occuper le gamin le temps que Kenneth ait réglé l'affaire. Elle parut réfléchir profondément alors qu'il s'approchait de Yéma. Il parlait doucement au navire.
Althea a pratiquement grandi sur ce pont. Elle croyait que tu serais avec elle. S'il n'avait tenu qu'à elle, jamais elle ne t'aurait abandonné. Tu verras. Quand elle sera de nouveau ici, tes sentiments pour elle reviendront. Vivacia, elle va te ramener à toi-même. Je sais que tu lui feras fête. Il faudra oublier ton ressentiment. Elle a été forcée d'agir ainsi.
Il eut un sourire rassurant.
Tu seras à nouveau toi-même.
Foudre avait les bras croisés sur la poitrine. Autour d'elle, l'eau bouillonnait de serpents.
Je ne suis pas en colère, Yéma. Tu m'assommes avec ton laïus.
J'ai souvent entendu dire que les prêtres discutaient jusqu'à ce qu'on tombe d'accord avec eux simplement pour qu'ils se taisent.
Alors je vais te demander une chose. Si je fais semblant d'éprouver quelques sentiments à son égard, te tairas-tu et t'en iras-tu?
Yéma baissa la tête. Kenneth crut qu'elle l'avait vaincu, mais il releva le menton pour regarder le parangon qui approchait.
« Non, »
dit-il à voix basse,
« je ne m'en irai pas. Je reste ici, à côté de toi. Quand elle montera à bord, il faudra qu'il y ait quelqu'un pour lui expliquer ce qu'il t'est arrivé. »
« Pas question. » Kenneth trancha dans le vif. Il s'éclaircit la gorge.
« En fait, Yéma, j'ai d'abord un petit travail à te confier. Prends état avec toi. Dès que nous aurons mouillé, je voudrais que tu prennes la yole et que tu rejoignes la Marietta. Certains hommes de Sorcor sont un peu fougueux et, ces derniers temps, ils se sont habitués à n'en faire qu'à leur tête. Dis à Sorcor, avec diplomatie bien sûr, que je me charge de prendre seul ce navire. Je veux qu'il garde la Marietta bien en retrait. Il serait même préférable que ces hommes ne se pressent pas le long des gardes-corps. Ce navire nous approche avec le pavillon blanc. Je ne veux pas que les gens à bord se sentent inférieurs en nombre ni menacés. Cela pourrait entraîner une violence inutile.
« Commandant, ne pourriez-vous envoyer ?»
commença Yéma d'une voix suppliante. Kenneth tapota avec insistance la main d'État. Elle comprit l'allusion.
« Arrête de pleurnicher, Yéma. Ça ne t'avancera à rien de rester ici et de te laisser tourmenter par foudre. Elle joue avec toi comme le chat avec la souris et tu n'as pas le bon sens de t'éloigner. » Alors Kenneth le fait pour toi. Viens. Tu as la parole facile et tu seras capable de transmettre les ordres à Sorcor de manière à ce qu'il ne se vexe pas.
Kenneth écoutait, saisi d'admiration. Quelle habileté! Elle faisait passer Yéma pour une tête sans cervelle et un égoïste qui essayait de résister aux pirates. Ce devait être un talent féminin. Il y avait eu une époque où sa mère lui parlait ainsi, en montrant ce qu'il fallait d'impatience pour le convaincre de son erreur. Il chassa ce souvenir. Plus vite Parangon disparaîtrait, mieux cela vaudrait. Voilà des années qu'il n'avait pas été remué de la sorte par des souvenirs enfouis. Yéma les regarda l'un après l'autre, hésitant.
« Mais j'espérais être présent quand Kenneth rencontrerait... »«
On aurait l'air de t'exhiber comme otage. » Je voudrais qu'il constate que tu es un membre volontaire de mon équipage, que tu ne subis aucune contrainte. À moins que... »
Kenneth s'interrompit et lui lança un regard étrange.
« Tu voulais quitter le navire? Tu espères repartir avec eux? Si c'est ce que tu désires, tu n'as qu'à le dire. Ils peuvent te ramener à Terrilville ou à ton monastère.
Non. »
Même Etta fut surprise par la vivacité de la réponse.
« Ma place est ici. Je le sais maintenant. Je n'ai aucune envie de partir. Commandant, je voudrais demeurer à vos côtés et assister à la fondation du royaume des îles des pirates. Je sens... c'est la volonté de ça que je sois là. »
Il baissa brièvement les yeux. Puis, il rencontra le regard grave de Kenneth.
« J'irai rejoindre Sorcor, commandant. Tout de suite ?»«
Oui. Je voudrais qu'il reste où il est. » Fais en sorte qu'il comprenne bien. Quoi qu'il arrive, il doit me laisser régler seul cette affaire.
Il les suivit des yeux tandis qu'il s'éloignait en hâte, puis il remplaça Yéma à la lice.
Pourquoi prends-tu un malin plaisir à tourmenter le gamin ?
Demanda-t-il à la figure de proue sur un ton d'indulgence amusée.
Pourquoi tient-il tellement à m'ennuyer avec son obsession de vivacia ?
Grogna-t-elle en retour.
Elle agita la tête pour observer l'approche du parangon.
Qu'est-ce qu'elle avait de si merveilleux exactement ? Pourquoi ne peut-il m'accepter à sa place ?
Jalousie ?
Si Kenneth en avait eu le temps, il aurait été curieux d'étudier cette possibilité. Il éluda les questions de foudre.
Les enfants essaient toujours de maintenir la stabilité. Laisse-lui un peu de temps, il va finir par s'y faire.
Il risqua une question qu'il n'avait jamais osé poser.
Est-ce que les serpents peuvent couler un vaisseau ?
J'entends par là non l'endommager pour qu'il ne puisse plus naviguer, mais l'envoyer par le fond.
Il reprit son souffle.
De préférence, démembrer.
Je ne sais pas,
répondit-elle avec indolence. Elle tourna la tête, lui présentant son profil. En le regardant du coin de l'œil, elle s'enquit.
Tu voudrais qu'on essaie ?
Il eut peine, pendant quelques secondes, à former le mot.
Oui,
admit-il enfin.
Si cela devient nécessaire,
ajouta-t-il faiblement. Elle baissa le ton et d'une voix de gorge,
« Réfléchis à ce que tu exiges. Parangon est une vive nef, comme moi-même. »
Elle se tourna vers la mer en direction du navire qui approchait.
« Un dragon, un frère, dort à l'intérieur de cette carcasse de bois. Tu me demandes de me retourner contre les miens pour te faire plaisir. Tu crois que je ferais ça ?»
Ce trou béant et inattendu dans ses plans faillit le décourager. Il faisait virer le parangon et mouillait l'ancre hors de portée de flèches. Pas si bête. Il fallait la convaincre, et vite.
Pour moi, tu passes avant tout. Si tu exigeais de moi un sacrifice analogue, je n'hésiterais pas,
dit-il avec douceur.
Vraiment ?
Insista-t-elle cruellement.
« Même s'il s'agissait d'État ?»«
Sans l'ombre d'une hésitation, » assura-t-il en refusant de réfléchir.
« Ou Yéma ?»
La voix s'était faite toute douce, côteleuse.
C'était retourner le couteau dans la plaie. Jusqu'à quel point lisait-elle en lui ?
Il respira à fond.
« Si tu l'exigeais. »
Le ferait-elle ? Voudrait-elle absolument qu'il renonce à lui ?
Il repoussa cette idée. Il l'en dissuaderait.
J'espère que je tiens la même place dans ton cœur.
Il tâcha de trouver d'autres belles paroles, mais elles lui faisaient défaut. Il finit par demander :
Tu le feras ?
Je crois qu'il est temps de te dire mon prix.
Repartit-elle. La Marietta avait hissé la petite embarcation de Yéma et virait de bord. Bientôt, elle mouillerait à distance respectueuse. Kenneth observait les manœuvres de l'équipage de Sorcor et attendait.
« Quand nous en aurons terminé ici, tu rassembleras tous tes navires, tous ceux qui battent le pavillon au corbeau. Vous nous servirez d'escorte. Les serpents doivent aller vers le nord, loin au nord, jusqu'à l'embouchure d'un fleuve dont ils se souviennent vaguement, mais je connais bien pour y être entré maintes fois quand j'étais vivacia. En cours de route, nous chercherons à recueillir d'autres serpents. Vous nous protégerez des attaques des humains. Quand nous atteindrons le fleuve, je le remonterai avec toi pendant que tes autres navires resteront de garde à l'embouchure. « Je sais très bien qu'un navire en bois ordinaire ne peut nous accompagner. Tu me donneras, Kenneth, Lutchance, tout ce qui reste de cet hiver, tout le printemps, tout ton temps jusqu'au milieu de l'été et la pleine chaleur du soleil, tandis que nous aiderons les serpents à faire ce qu'il faut et les protégerons durant leur période vulnérable. » Voilà le prix. Es-tu prêt à le payer ?
En le nommant par son nom, elle le rivait à elle.
Comment savait-elle ? Avait-elle deviné ?
Alors il baissa les yeux vers le charme goguenard à son poignet. En examinant les traits, répliques des siens, il comprit qui l'avait trahi.
La mulette cligna les yeux. « Moi aussi, autrefois, j'étais un dragon, » dit-elle tranquillement.
Il avait si peu de temps pour réfléchir. Disparaître ainsi pendant des mois avec les serpents signifiait pour lui la ruine de tout ce qu'il avait construit. Pourtant, il n'osa pas refuser. « Qui sait ? » songea-t-il sinistrement. « Cela ne ferait qu'ajouter à ma légende. » Le parangon amenait une petite embarcation. Altea Vestrit y serait certainement. Il n'en était pas question. Il n'allait pas la laisser mettre le pied à bord de la Vivacia. Foudre niait le contact, mais Kenith ne voulait pas courir de risque. Il fallait l'arrêter sur le champ et la renvoyer. Il avait pris Vivacia à Yémin. Il n'allait pas se la laisser enlever par une autre.
« Si je fais ce que tu demandes, tu couleras, parangon ?»
Maintenant qu'il savait qu'elle connaissait ses raisons, il lui fut encore plus difficile de formuler sa requête.
« Dis-moi pourquoi tu veux qu'il disparaisse. Dis les mots. »
Il prit une inspiration et rencontra son regard.
« Mes motifs sont les mêmes que les tiens, j'imagine, »
déclara-t-il froidement.
« Tu ne veux pas qu'Altea vienne à bord, car tu crains qu'elle ne te rende à toi-même. »
Il leva les yeux vers le parangon.
« Là-bas, flotte une partie de moi-même dont je pourrais fort bien me passer. »
« Alors, ça me paraît plus sage pour nous deux, en effet, »
convint-elle froidement.
« Il est fou. Je ne peux pas compter sur lui pour nous aider. Pire, en tant que Vivnef, il pourrait nous suivre sur le fleuve et s'opposer à nous. » Il ne volera plus jamais comme dragon, alors mettons un terme à son malheur, et au tien par la même occasion, et tu te lies à moi, rien qu'à moi.
Jalousie. Cette fois-ci impossible de s'y méprendre. Elle ne tolérait aucun rival, et encore moins un rival aussi puissant que Parangon. En ceci aussi ils se ressemblaient. Elle rentra le menton et appela les serpents. Le son qu'elle émit, Kenith le sentit plus qu'il ne l'entendit. Leur escorte s'était attardée en arrière pour chasser et se nourrir, mais elle revint promptement à l'appel de foudre. Kenith perçut la réponse des serpents, et l'eau autour de la proue se mit à bouillonner. Un instant plus tard, une forêt de têtes attentives, ployée gracieusement sur leur long col, se dressa autour d'eux. Le serpent d'or vert de l'île des autres prit la tête de la multitude. Quand foudre s'arrêta, il ouvrit les mâchoires et répondit en rugissant. La figure de proue rejeta la tête en arrière et se mit à chanter. Sa voix luttait contre le vent qui annonçait une tempête. Il y eut un échange de gémissements, de braillements, de cris aigus et ténus entre les deux. Deux autres joignirent leur voix au concert. Kenith s'impatientait. Il devait être en train de discuter les ordres de foudre. Le fait ne s'était encore jamais produit et ne présageait rien de bon, mais Kenith n'osait pas l'interrompre avec ses questions. L'équipage écoutait et observait avec curiosité. Il baissa les yeux sur ses mains agrippées à la lisse. Il aperçut la petite figure à son poignet qui le considérait. Il approcha le charme de son visage.
« Il lui résiste ? »
chuchota-t-il.
« Il se pose des questions. Celle qui se souvient pense que Parangon peut leur être utile. Foudre rétorque qu'il est fou et qu'il est un instrument servile aux mains des humains à son bord. Shriver demande s'ils peuvent le dévorer pour recueillir ses souvenirs. Foudre s'y oppose. Celle qui se souvient exige de savoir pourquoi. Maintenant, Malkin demande si le navire détient un savoir qu'elle veut leur cacher. »
Foudre était manifestement en colère à présent. Kenith eut conscience de l'ébahissement de l'équipage derrière lui. Jamais auparavant les serpents n'avaient hésité à obéir aux ordres de la Vivnef. Sans tourner la tête, il avertit Yola.
« Tout le monde à son poste.
Le second s'exécuta lestement.
« Qu'est-ce qu'ils disent ?»
s'inquiéta Kenneth.
« Tu as des yeux, non ?»
répondit le charme dans un murmure.
« Ils vont lui obéir. »
Brashen était resté à bord de Parangon. Il ne paraissait pas prudent qu'il quitte tous les deux le navire, et Althea ne supportait pas d'être si proche de Vivacia sans pouvoir lui parler. Avec elle dans l'embarcation, Aff et Jack se courbaient sur les avirons. Clapeau, accroché à un câble d'amarrage, était assis à l'avant et regardait devant lui d'un œil menaçant. Althea se tenait toute raide sur le banc de nage. Elle avait fait toilette et revêtu la même tenue que lors du départ de Terrilville. Elle pestait contre le poids de la jupe-culotte, mais l'occasion exigeait une certaine solennité, et c'étaient les meilleurs habits qu'elle possédait. En fait, de tous ses vêtements, ceux-ci étaient les seuls à la limite du présentable. Le vent glacé tirait joyeusement sur ses cheveux tressés. Elle espérait que Kenneth n'interpréterait pas son relatif respect des formes comme une volonté de se cacher derrière un accoutrement féminin. Il fallait qu'il la prenne au sérieux. Elle tourna le parchemin dans ses mains et garda les yeux rivés sur leur destination. Sur le gaillard d'avant de sa Vivacia bien-aimée se dressait une silhouette solitaire. Une cape bleue foncée claquait au vent. L'homme se tenait déporté sur la hanche, tout son poids sur une jambe. Et il s'agissait sûrement de Kenneth. Avant de quitter le pont de Parangon, elle avait aperçu plusieurs personnes avec lui. Elle avait supposé que le tout jeune homme était Yéma. Elle ne pouvait rien affirmer, mais les cheveux noirs et l'attitude lui avaient rappelé son père. Était-il possible que ce soit lui? Si oui, où était-il maintenant? Pourquoi Kenneth attendait-il seul? Machinalement, elle se retourna vers Parangon. Elle distinguait Brashen sur le gaillard d'avant. Cliff était à ses côtés, les mains sur les hanches, imitant inconsciemment la posture de son capitaine. Les cheveux d'ambre flottaient dans le vent comme des écheveaux de soie, et son visage figé évoquait une seconde figure de proue. Bras croisés et mâchoires serrées, Parangon portait son regard aveugle en direction de Vivacia. Ses muscles raidis trahissaient une terrible résolution. Il n'avait pas prononcé un mot depuis que Vivacia était en vue. Althea s'était hasardée à effleurer son épaule musclée qu'elle avait trouvée rigide et dure comme du bois. Elle avait eu l'impression de toucher le dos tendu d'un chien hargneux. « N'aie pas peur !» lui avait-elle dit doucement, mais il n'avait pas répondu. Assise sur la lisse à côté d'elle, une ambre très calme avait secoué la tête. « Il n'a pas peur !» avait-elle déclaré à voix basse. « La colère qui brûle en lui annihile toute autre émotion. » Les cheveux légèrement soulevés par le vent, elle avait ajouté d'une voix lointaine « Le danger nous tient au creux de sa main, et nous ne sommes que les témoins impuissants de la rotation du monde. Ici, nous marchons en équilibre sur le fil qui sépare les avenirs possibles. L'humanité croit toujours qu'elle décide du destin du monde, et avec raison, mais jamais au moment où elle le pense. » L'avenir de mille ondulations comme un serpent dans l'eau et le sort d'un navire deviennent la destination du monde. Elle se retourna pour observer Althea avec des yeux dont la couleur rappelait un alcool ambré à la lueur du feu.
« Tu ne sens pas ? »
demanda-t-elle dans un murmure.
« Regarde autour de toi. Nous sommes à la charnière. » Nous sommes une pièce de monnaie en train de tourner en l'air, une carte que l'on bat, un jeton de rune qui flotte dans une eau qu'on remue. Les possibilités pullulent comme des abeilles. En ce jour, dans un instant, dans un souffle, l'avenir du monde va changer de cours. D'une façon ou d'une autre, la pièce va s'immobiliser en tintant, la carte va s'aplatir sur la table, le jeton va remonter à la surface. La face qui apparaîtra vers le haut va régler nos jours, et les enfants à venir diront « C'est ainsi qu'il en a toujours été. »
Sa voix s'éteignit, mais Althea eut l'impression que le vent portait ses paroles autour du monde. Elle sentit des picotements partout le crâne.
Ambre, tu me fais peur. »
Ambre s'était lentement tournée vers elle avec un sourire de béatitude.
« Vraiment ? Alors tu deviens sage. »
Althea ne se crut pas capable de soutenir ce regard-là. Alors son amie cligna les yeux et la vit pour de bon. Elle avait sauté sur le pont, s'était essuyé les mains sur le fond de ses culottes avant d'enfiler ses gants.
« Il est temps pour toi d'y aller, » annonça-t-elle. « Viens, je vais t'aider à te coiffer. » « Veille sur Parangon pour moi, » avait chuchoté à mi-voix Althea. « J'aimerais bien. »
De ses longs doigts, elle avait caressé la lys.
« Mais aujourd'hui, c'est un jour qu'il doit affronter seul. »
À présent, Althea le regardait depuis l'embarcation en regrettant qu'Ambre ne l'ait pas accompagnée. Elle resserra les doigts autour du parchemin et se demanda encore une fois si Kenneth se laisserait tenter par la proposition soigneusement rédigée.
Il le fallait. Tout ce qu'elle avait entendu dire de cet homme révélait une intelligence ferme, doublée d'une remarquable clairvoyance. Il avait hissé un pavillon blanc, lui aussi. Donc, il était disposé à négocier. Il l'écouterait au moins jusqu'au bout. Même s'il aimait Vivacia, peut-être surtout s'il aimait Vivacia, il comprendrait qu'il était dans l'intérêt général de la rendre à sa famille en échange d'accords commerciaux extrêmement avantageux. Soudain, Ambre agita un doigt qu'elle pointa dans la direction d'Althea. Au même instant, Clapeau poussa un cri sauvage, répété par Af qui lâcha son aviron et se leva à demi. Althea tourna vivement la tête dans la direction qu'indiquait Ambre et elle resta clouée sur place. Autour de la proue de Vivacia, la mer grouillait de serpents. Des têtes étincelantes surgissaient l'une après l'autre de l'abîme, jusqu'à ce qu'une forêt se dresse entre eux et le navire. Althea eut le cœur au bord des lèvres. Dans le canot, Af s'accroupit et bredouilla, tandis que Jack demandait « On revient en arrière ?» Clapeau traversa à croupetons le canot et reprit plein d'espoir l'aviron de Af. Althea ne trouvait plus ses mots. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Être venue de si loin pour voir Vivacia périr sous ses yeux. Pourtant, ce qui se produisit ensuite fut encore pire. Vivacia rejeta la tête en arrière et chanta pour les serpents. Sa gorge se gonfla, elle ouvra la bouche toute grande. Des gémissements inhumains, des rugissements et des trilles s'échappèrent de ses lèvres. Les reptiles, fascinés par son chant, balançaient la tête. Ils se mirent eux aussi à chanter, comme envoûtés par elle. Vivacia leur parlait, c'était évident, et ils lui répondaient. Le visage de la vive nef, qui étirait ses traits pour produire des sons reptiliens, était étranger et surnaturel le mouvement de ses cheveux qui se dressaient et se tordaient. Cela rappelait quelque chose à Althea, quelque chose qu'elle n'avait pas vu souvent, mais qu'elle était incapable d'oublier. Cela lui rappelait la crinière d'un serpent qui se déployait et se hérissait juste avant qu'en jaillisse le venin. Pourquoi Vivacia imitait-elle les mouvements d'un serpent? Essayait-elle de les convaincre de ne pas lui faire de mal? En levant les yeux vers le navire, elle fut glacée au plus profond d'elle par une certitude terrible. Elle la repoussa comme on chasse la terreur persistante d'un cauchemar, se refusant à l'admettre. « Elle est à moi !» Vivacia est à moi, c'est ma famille, c'est mon sang. Pourtant, elle s'entendit donner l'ordre à voix basse. Clapeau, Jack, filons d'ici. Af, assieds-toi et tais-toi, si tu ne peux pas te rendre utile. Elle n'eut pas besoin de répéter. Elle se rassit précipitamment. Clapeau et Jack se penchèrent vivement sur les avirons. Vivacia leva une main immense. Elle ne jeta pas un regard vers Althea et les trois autres dans le canot, mais indiqua impérieusement Parangon. De sa gorge s'échappa un « qui » aigu comme le cri d'un faucon fondant sur sa proie. Telle une volée d'oiseaux tournoyant, les têtes des serpents se tournèrent vers la vive nef aveugle. Tout à coup, la forêt de reptiles se déplaça droit vers elle en un tapis ondulant aux couleurs scintillantes. Les têtes fendaient l'eau, les dos luisants sinuaient à la surface étincelante des vagues, tandis qu'ils filaient comme des flèches vers Parangon. Althea n'avait jamais rien vu d'aussi beau ni d'aussi terrifiant. Les mâchoires béantes révélaient des gueules écarlates et des dents blanches, comme des fleurs se tournant vers le soleil, les crinières multicolores s'épanouirent sur les poitrails et se dressèrent en de mortels pétales. Sur le pont de Parangon, Brashen leur hurlait de faire demi-tour, de revenir immédiatement au navire comme si son ordre avait pu faire avancer plus vite le petit canot. Althea se retourna pour regarder la vague de serpents et elle comprit qu'il était trop tard. Clapo et Jack arrachaient aux avirons en longs coups qui ébranlaient l'embarcation, mais jamais le petit canot et les deux nageurs ne pourraient distancer ces créatures marines. Victime du souvenir de sa dernière rencontre avec un serpent, le pauvre Aff était recroquevillé au fond du bateau, pantelant de peur panique. Althea ne pouvait lui en vouloir. Elle vit les serpents les gagner de vitesse, pétrifiés à la vue du danger. Alors, un immense reptile bleu se dressa au-dessus du canot, la crinière hérissée en un gigantesque parasol de tentacules. Dans l'embarcation, ils crièrent tous d'effroi, mais l'énorme animal se borna à les écarter de son chemin d'un coup d'épaule. Le bateau tangua violemment dans son sillage, fut heurté par un autre et se mit à tournoyer. Un troisième arracha sur son passage l'aviron des mains de Jack et déchira le tollé. Il ne pouvait guère que se blottir au fond du canot en espérant qu'il ne se cabanerait pas. Althea se cramponnait au banc de nage, les phalanges blanchies, et se demandait s'ils en sortiraient vivants. Alors que le violent tangage s'apaisait, elle vit avec horreur les serpents encerclés par Angon. Elle ne pouvait rien faire pour le navire, ni pour l'équipage. Elle se força à ne penser qu'aux mesures à prendre. L'officier en second se décida. « Serre-toi de l'aviron comme d'une godille et cap sur la vivacia. Elle est notre seul espoir maintenant. On ne rejoindra jamais Parangon avec tous ces serpents. »
Brashen observait, impuissant, le petit canot ballotté et secoué dans les remous des serpents. Il évaluait mentalement et éliminait les différentes possibilités. Amener une seconde embarcation ne les aiderait pas et ne servirait qu'à mettre d'autres hommes en danger. Si le bateau d'Althea chavirait, il ne pourrait rien faire pour eux. Il détourna les yeux et respira à fond. Quand il regarda à nouveau, il la considéra comme un capitaine. Pour le moment, elle n'était plus sa maîtresse. S'il croyait un peu en elle, il devait s'en remettre à elle pour s'occuper de son embarcation et de sa bordée. Elle attendrait de lui la même chose. Le navire devait être sa priorité. Non qu'il y eût grand-chose à faire, il n'en donna pas moins des ordres.
« Dérapez l'ancre. Je veux pouvoir manœuvrer si besoin est. »
Disait-il cela uniquement pour occuper ses hommes afin qu'ils ne restent pas à regarder déferler la vague de serpents? Il lança un coup d'œil à Ambre. Elle se tenait fermement à la lisse, penchée en avant, et elle parlait tout bas à Parangon en lui rapportant tout ce qu'elle voyait.
Et il se reporta en arrière sur ses précédentes rencontres avec les serpents.
En se rappelant l'épisode de Haff, il donna des ordres stricts qui amèneraient ses meilleurs archers au garde-corps.
« Ne tirez pas avant mon signal !»
dit-il brutalement.
« À ce moment-là, vous ne tirez que si vous pouvez toucher le point coloré, juste à l'angle des mâchoires, pas d'autre cible. Tant que vous ne l'avez pas, ne tirez pas. Il faut faire mouche à tous les coups. »
Il se retourna vers Ambre.
« Armez le navire ?»
« Il ne veut pas, » répondit-elle à voix basse.
« Et je ne veux pas non plus de tes archers. »
La voix de Parangon était enrouée.
« Écoute-moi, Brashen Trell. Dis à tes hommes de baisser leurs arcs et autres armes. Garde-les à portée de main, mais ne les brandis pas. Je ne veux pas qu'on massacre ces créatures. « Je ne crois pas qu'elle représente un danger pour moi. Si tu as le moindre respect pour moi... »
Parangon laissa sa phrase inachevée. Il leva les bras et cria soudain.
« Je vous connais! Je vous connais !»
Le timbre profond de son cri vibra à travers tout le navire. Lentement, il baissa les bras.
« Et vous me connaissez ?»
Brashen le regarda, pantois, mais ordonna à ses archers d'obéir. « Que voulait dire Parangon ?» Mais alors que la figure de proue rejetait la tête en arrière pour prendre son souffle, Brashen comprit soudain que le navire s'adressait au serpent, non à l'équipage. Parangon ouvrit sa bouche toute grande. Le son qui s'en échappa fit frémir les bordées sous les pieds de Brashen, puis monta jusqu'à l'ululement aigu. Une autre profonde respiration, et il poussa un cri dont les modulations rappelaient le sifflet de Marine. Dans le silence qui suivit, Brashen entendit le murmure haletant d'Ambre.
« Ils t'entendent, ils ralentissent et se regardent. Maintenant ils arrivent, mais plus lentement, et ils te regardent tous. Ils s'arrêtent, ils se déploient en éventail autour de toi. Il y en a un qui se détache. Il est vert avec des éclats dorés sur ses écailles quand il se tourne vers le soleil. »«
Elle !»
corrigea tranquillement Parangon.
« Celle qui se souvient. »
« Je l'ai senti dans le vent, mon bordage a senti sa présence dans l'eau.
Elle me regarde ?»«
Oui, ils te regardent tous. »«
Bien. »
La figure de proue reprit haleine, et une fois encore, sortit de sa bouche le langage caverneux des serpents. Le cœur lourd, Shriver suivait Molkin. Elle ne remettait pas en question sa loyauté envers lui. Elle l'aurait suivi sous la glace. Elle avait accepté sa décision quand il avait abdiqué son autorité en faveur de « celle qui se souvient ». Elle avait cru instinctivement en ce serpent tout tordu, avec une foi qui ne tenait pas qu'à son odeur caractéristique. Toute sa personne inspirait confiance. Shriver était certaine que ces deux-là ensemble pouvaient sauver leur espèce. Mais dernièrement, il lui semblait que les deux chefs avaient cédé leur autorité au navire argenté qui disait s'appeler Foudre. Shriver n'avait pas confiance en lui. Quoiqu'il ait l'odeur de celle qui se souvient, il n'avait ni la forme ni les manières d'un serpent. Ses ordres étaient souvent incompréhensibles, et ses promesses de les guider vers le lieu de nidification commençaient toujours par « bientôt ». « Bientôt » et « demain » étaient des concepts qu'on ne pouvait guère se permettre d'adopter. L'hiver rendait les eaux glaciales et les bancs de poissons se faisaient rares. Déjà, les serpents maigrissaient. Ils n'auraient bientôt plus suffisamment de réserves pour passer l'hiver, sans parler même de se métamorphoser. Mais celle qui se souvient écoutait l'argenté, et Molkin l'écoutait, elle. Alors Shriver suivait, comme cessuré à le reste du nœud. Pourtant, ce dernier ordre du navire était incompréhensible. Détruire l'autre navire argenté. Pourquoi ? Elle voulait le savoir. Il ne les avait pas menacés ni provoqués d'aucune façon. Il avait une odeur de serpent, vague et atténuée, pas aussi forte que celle de Foudre, mais bien présente, cependant. Alors, pourquoi le détruire ? Surtout, pourquoi le détruire sans dévorer sa carcasse ? Pourquoi le couler, le démembrer sans pouvoir se partager sa chair ? À en juger par son odeur, il était riche en souvenirs. L'autre navire argenté qu'ils avaient coulé leur avait volontiers abandonné sa chair et ses souvenirs. Pourquoi celui-ci serait-il différent ? Mais Foudre leur avait assigné leur rôle. Ils devaient éclabousser le navire de leur venin de façon à affaiblir sa structure. Ensuite, les mâles, plus grands et plus gros, devaient se jeter contre lui pour le coucher sur le côté. Une fois ses ailes dans l'eau, les serpents plus petits joindraient leur poids et leur force pour le saisir aux membres et le tirer par le fond. Là, ils devaient le mettre en pièces et laisser couler les morceaux. Il pourrait manger seulement les deux pattes. Du gaspillage, un gaspillage insensé, calculé, d'énergie, de vie et de nourriture. Y avait-il là, chez ce navire argenté, quelque chose que Foudre redoutait? Un souvenir caché qu'elle ne voulait pas partager avec eux tous? Alors l'argenté se mit à parler. Sa voix profonde, puissante, faisait frémir et miroiter l'eau. Elle glissa majestueusement sur les écailles de Shriver. Elle se surprit à ralentir, sa crinière s'affaissa d'étonnement.
« Pourquoi m'attaquez-vous »
demanda-t-il. Plus durement, il ajouta.
« C'est lui qui vous l'a ordonné. Alors c'est qu'il n'a pas le courage de me voir en face, et il envoie les autres faire le travail à sa place? Autrefois, il n'était pas si fourbe dans ses trahisons. Je pensais vous connaître. Je pensais vous appeler les héritiers des trois règnes. Mais eux étaient d'une espèce qui se suffisait à elle-même. Ils ne se précipitaient pas pour ramper aux ordres des humains.
Le mépris suintait de sa voix comme du venin. Subitement, les serpents tournèrent sur eux-mêmes dans une mêlée confuse. Ils n'étaient pas préparés à entendre leurs victimes s'adresser à eux, encore moins les interroger et les accuser. Celle qui se souvient parla en leur nom à tous.
« Qui es-tu ? Qu'es-tu ?
Qui suis-je ? Que suis-je ? Il y a tant de réponses à ces questions qu'elles sont insignifiantes. Voilà des décennies que j'y réfléchis, et je n'ai jamais trouvé d'explication. Même si je le savais, pourquoi vous devrais-je une réponse alors que vous, vous n'avez pas répondu à ma question ? Pourquoi m'attaquez-vous ? Êtes-vous au service de Kenith ?
Personne ne réagit, mais personne n'attaqua non plus. Shriver lança un coup d'œil aux deux pattes regroupées le long des bords du navire qui s'accrochaient à ses membres supérieurs. Ils étaient silencieux et immobiles, ils observaient ce qui se passait. Ils savaient qu'ils n'avaient pas leur mot à dire. C'était l'affaire des seigneurs des trois règnes. Que signifiaient ces accusations ? Un doute grandit peu à peu dans l'esprit de Shriver. L'ordre de tuer ce navire venait-il vraiment de foudre ou parlait-elle au nom des humains qui étaient à son bord ? Shriver guetta avidement celle qui se souvient et Malkin qui attendait chacun que l'autre réponde. Mais ce fut le serpent blanc sans nom qui prit la parole. Il était resté exclu du nœud, toujours à la frange, à écouter, à se moquer.
Ils vont te tuer non sur l'ordre d'un homme, mais parce que l'autre navire a promis de les guider au pays s'ils obéissent. Et tant de nobles créatures à l'esprit magnanime, ils ont aussitôt accepté d'assassiner, bien petit sacrifice pour acheter leur sauvetage, même s'il s'agit d'assassiner l'un des leurs.
La créature qui faisait partie du navire écarta ses membres.
L'un des vôtres ? Alors vous me déclarez vraiment l'un des vôtres ? Comme c'est étrange. Car si au premier contact je vous ai reconnu, je ne me reconnais toujours pas moi-même, et je ne me déclare moi-même d'aucune origine. Comment cela se fait-il que vous, vous me déclariez l'un des vôtres ?
Il est fou !
Trompeta un serpent rouge couturé de cicatrices en faisant tournoyer ses prunelles cuivrées.
Faisons ce que nous devons, tuons-le ! Alors elle nous conduira vers le nord, nous n'avons que trop tardé ! « Ah oui !»
gloussa le serpent blanc avec un rire de gorge.
« Tuez-le vite, avant qu'il ne nous force à regarder en face ce que nous sommes devenus. Tuez-le avant qu'il ne nous oblige à nous interroger sur l'autre navire et sur la raison qui nous pousse à lui faire créance. »
Il se tordit en un nœud insolent, comme s'il cherchait sa propre queue.
Peut-être est-il une chose qu'elle a apprise au cours de sa vie infestée d'humains. Comme nous nous en souvenons tous, il s'entretue avec délectation. Ne les avons-nous pas secondés dans cette tâche, sur ordre de foudre ? Si vraiment ces ordres proviennent de foudre, peut-être est-elle devenue la servante zélée d'un humain ? Peut-être nous apprend-elle à le devenir aussi ? « Montrons-lui quels élèves doués nous sommes. Tuons-le !»
Celle qui se souvient déclara lentement.
« Il n'y aura pas de meurtre. Ceci n'est pas juste et nous le savons tous. Tuer cette créature non pour nous nourrir ni pour nous protéger, mais simplement parce qu'on nous l'a ordonné, ce n'est pas digne de nous. Nous sommes les héritiers des trois règnes. » Quand nous tuons pour nous-mêmes, pas comme cela.
Shriver fut submergé par le soulagement. Ses doutes avaient été plus profonds qu'elle ne se l'était avoué. Soudain, Conteur, le ménestrel vert et mince, intervint.
Alors, qu'en est-il de notre marché avec foudre ? Elle devait nous guider au pays si nous faisions cela pour elle. Allons-nous être livrés à nous-mêmes comme avant ?
Peut-être vaut-il mieux demeurer ce que nous étions avant de la rencontrer qu'être ce qu'elle a failli faire de nous,
répondit gravement Moulkin. Celle qui se souvient reprit la parole.
J'ignore ce que nous devons à ce navire. D'après ce que nous savons, lorsque nous parlons à ces êtres, nous nous entretenons avec la mort. Pourtant, ils furent des nôtres autrefois, et à ce titre, nous leur devons au moins un peu de respect. Celui-là, nous ne le tuerons pas. Je vais retourner vers Foudre, voir ce qu'elle en dit. Si cet ordre ne vient pas d'elle, mais des humains à son bord, alors laissons-les livrer seuls leur petite bataille. Nous ne sommes pas des serviteurs. Si elle refuse de nous conduire au pays, alors je m'en irai. Ceux qui le désirent pourront me suivre. Peut-être mes souvenirs suffiront-ils à nous guider, peut-être pas. Mais nous demeurerons les héritiers des trois règnes. Ensemble, nous accomplirons cette dernière migration. Si elle ne nous mène pas à la renaissance, ce sera à la mort. Mais il vaut mieux mourir que devenir comme les humains et massacrer les nôtres afin de survivre.
« Facile à dire !»
trompeta un serpent orange furieux.
« Mais plus difficile à vivre ! L'hiver est là, prophète ! Peut-être le dernier hiver que nous connaîtrons, tu ne peux nous guider ! Le monde a trop changé ! Sans un guide sûr, retourner vers le nord, c'est mourir ! Nous n'avons d'autre choix que filer vers les terres chaudes ! Quand nous reviendrons, nous serons beaucoup moins nombreux ! Et que nous rappellerons-nous ?
Il tourna vivement la tête pour regarder le navire avec froideur.
Tuons-le ! C'est un petit sacrifice pour assurer notre salut.
Un petit sacrifice !
Approuva un long serpent rouge.
Ce navire qui est incapable de nous répondre, qui ne se déclare même pas des nôtres, représente un petit prix à consentir pour le salut de notre espèce. Celle qui se souvient l'a dit elle-même. Quand nous tuons, c'est que nous l'avons décidé. Nous tuons pour nous-mêmes. Et en effet, ce sera pour nous-mêmes si sa mort doit acheter notre survie à tous.
« Achetons-nous nos vies aux humains en payant avec le sang de notre espèce ? Je ne crois pas !»
Le serpent moucheté de safran qui prononça ces paroles de défi avait la crinière dressée. Il fondit sur le long serpent rouge.
« Et qu'est-ce que ce sera après ? Les humains nous ordonneront-ils de nous retourner les uns contre les autres ?»
Pour manifester son mépris, le provocateur secoua des toxines paralysantes en direction du long serpent rouge. Celui-ci battit en retraite en rugissant, secoua la tête et éclaboussa sauvagement ses voisins de son venin. Les deux adversaires s'affrontèrent, s'enveloppant l'un l'autre et relâchant des jets de poison. Les autres se précipitèrent dans la mêlée. Un courant de toxines frappa un des géants bleus qui réagit instinctivement en pulvérisant un jet brûlant. Fou de douleur, un serpent vert le serra et s'enroula autour de lui. Dans leur lutte, ils battaient l'eau qui écumait autour d'eux. Pris dans les remous, les autres plus petits se heurtaient, éclaboussaient ou frappaient en retour. Le chaos se généralisa. Au-dessus du tumulte, Shriver entendit le hurlement du navire argenté.
« Arrêtez, vous vous faites du mal! Cessez immédiatement! Finissez-en avec moi s'il le faut, mais ne vous entretuez pas !»
Fut-ce un des serpents qui le prit au mot ? Fût-ce accidentellement qu'un jet de venin l'atteignit et lui tira ses hurlements rauques ? Le poison était-il destiné à un autre serpent ? Trop tard pour s'interroger. Il était vain de le savoir. Le navire argenté mugit de douleur. Il poussait des cris humains, en battant vainement des bras pour se protéger du brouillard de gouttes brûlantes. Les humains mêlèrent leurs cris aux siens, des cris affolés, pitoyables. Alors, tiré du pont. Une flèche ailée glissa sur la peau de Shriver et rebondit sur Moulkin sans le blesser. Cette futile attaque contre leur chef suffit à enrager les serpents agités. Une vingtaine d'entre eux se resserrèrent autour du navire infortuné.
un immense bleu léprona à la façon d'un orque, tandis que d'autres plus petits l'aspergeaient de venin. Ils n'étaient pas habitués à se battre au-dessus du plein. Les vents instables du monde d'en haut rabattaient sur eux la plus grande partie de leur poison, ce qui ne fit qu'accroître la furie de l'assaut.
« Arrête-les !»
rugit Molkin, et celle qui se souvient prêta aussi sa voix.
« Cessez cette folie, nous nous battons entre nous pour rien !»
La voix du serpent blanc retentit au-dessus du tumulte.
« Si Foudre veut la mort de ce navire, elle n'a qu'à le tuer elle-même. Qu'elle nous prouve qu'elle est digne d'être suivie. Mettons-la au défi !»
Ce furent ses paroles, plus que celles des chefs, qui parurent modérer la frénésie. Cessuréa enveloppa deux combattants, les entraîna vers le fond pour les éloigner du navire. Shriver et d'autres suivirent son exemple, tirant les lutteurs dans les profondeurs apaisantes du plein, jusqu'à ce qu'ils reprennent leur sens. La folie qui s'était emparée d'eux commença à se dissiper. L'attaque cessa aussi subitement qu'elle avait débuté.
« Je ne comprends pas. »
Brashen tituba jusqu'à la lisse et regarda incrédule les serpents qui s'éloignaient du navire.
« Qu'est-ce que ça signifie ?»
Cliff, tout pâle, serrait son avant-bras brûlé mais réussit à sourire, un grand sourire de soulagement.
« Ça veut dire qu'on va pas mourir encore, hein ?»
Partout le navire, les hommes éperdus de douleur hurlaient, titubaient, se labouraient la peau. Seuls deux des archers avaient été atteints directement par un jet de venin, mais des gouttes pulvérisées en avaient affecté beaucoup. Les blessés se tordaient sur le pont, se frottaient désespérément en s'écorchant pour se débarrasser de l'humeur visqueuse qui les rongeait.
« Ne frottez pas les blessures, vous ne faites qu'étaler le venin, de l'eau de mer !»
hurlait Brashen au-dessus de la confusion générale.
« Aux pompes, ceux qui peuvent, les seaux, rincez la figure de proue, vos camarades, le pont, il faut me diluer ça, lest !»
Brashen jeta un rapide coup d'œil sur la mer, espérant apercevoir le canot d'Altea. Il l'avait vu reprendre la maîtrise de l'embarcation. Pendant que les serpents entouraient Parangon, elle s'était dirigée de nouveau vers Vivacia. Le soleil éblouissant sur les vagues, les reflets sur les dos mouvants des serpents lui brouillaient la vue. Où était-elle? Avait-elle réussi à se mettre à l'abri? Il était si difficile de la chasser de son esprit. Ce lui fut un vrai déchirement de tourner le dos à la mer. Il ne pouvait rien pour elle. Des devoirs plus immédiats l'appelaient. En plusieurs endroits, la lisse et le pont fumaient, atteints par la froide brûlure du venin. Brashen prit des mains d'un matelot un seau d'eau de mer et le porta jusqu'à la figure de proue. Ambre l'avait devancé. Elle lança le contenu d'un seau sur l'épaule fumante de Parangon. L'eau de mer emporta un brouillard gélatineux de poison et le navire tout entier frémit de soulagement. Ses lamentations funèbres se réduisirent à des gémissements haletants. Ambre se tourna vers Brashen et voulut lui prendre le seau des mains. Il sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine.
« Ne bougez pas !»
ordonna-t-il rudement, et il lui vida tout le récipient sur la tête. De grandes mèches de cheveux se détachèrent et s'en allèrent avec l'eau ruisselante. Sur le côté gauche, ses vêtements pendaient en lambeaux fumants et son visage était couvert de cloques.
« Allez vous déshabiller et vous lavez soigneusement »
ordonna-t-il. Elle hésitait.
« Parangon a besoin de moi, »
dit-elle faiblement.
« Tout le monde s'est retourné contre lui. Ceux de sa famille, ses proches, il n'a plus que nous, Brashen, seulement nous. »
Parangon leur montra un visage grêlé, voilé de vapeur.
« J'ai bien besoin de vous, »
admit-il d'une voix enrouée.
« C'est vrai. » Et c'est pour ça qu'il faut que tu descendes, te déshabiller avant que le venin ne te dévore tout entière.
Soudain, il y eut un hurlement d'horreur provenant de Cliff. Il pointait un doigt tremblant.
Le canot, capitaine, tapé par une queue de serpent, ils ont tous volé comme des poupées, juste en plein dans les serpents, et maintenant je les vois plus.
En une seconde, Brashen fut près de lui.
Où ça ?
Demanda-t-il en secouant le gamin par l'épaule, mais Cliff ne pouvait que montrer dans le vide. À l'endroit où s'était trouvé le canot, on n'apercevait que l'ondulation chatoyante des dos et les vagues étincelantes. Brashen doutait qu'Altea sache nager. Rares étaient les marins qui se donnaient la peine d'apprendre, prétendant que, lorsqu'on passait par-dessus bord, nager ne faisait guère que prolonger l'agonie.
Il pensa au poids de sa longue jupe, l'entraîna vers le fond, et il gémit tout haut. Il ne pouvait la laisser s'en aller ainsi. Mais amener un autre canot dans cette mer de serpents, c'était tout simplement assassiner ses hommes.
« Dérapez ! »
cria-t-il. Il allait approcher la Vivacia et faire des recherches à l'endroit où Cliff avait vu le canot disparaître. Il y avait une toute petite chance qu'ils en aient réchappé, s'ils s'étaient cramponnés à l'embarcation cabanée. En dépit des pirates, en dépit des serpents, il la retrouverait. Il le fallait.
Kenneth observait la vague de tête et de gueule béante qui approchait et tâchait de conserver son sang-froid. Les cris lointains de son navire lui limaient les nerfs, lui labouraient l'âme, réveillant les souvenirs d'une nuit obscure et enfumée. Il les repoussa.
« Pourquoi reviennent-ils? Ils ne l'ont pas achevé ?»
Il respira péniblement.
« Je croyais qu'ils agiraient vite. J'aurais voulu une fin rapide, moi. »
« Je ne sais pas !»
répliqua Foudre, furieuse. Elle rejeta la tête en arrière et trompeta à l'adresse des serpents. Des sonneries confuses lui répondirent.
« Il va falloir que tu triomphes de tes cauchemars !» déclara le charme à mi-voix. « Vois, Parangon vient te chercher !»
Dans un instant de grande lucidité, Kenneth regarda le navire rappeler lourdement dans le vent puis se mettre en route dans sa direction.
« Bien. »
Il allait donc y avoir bataille, finalement. Peut-être était-ce mieux ainsi. Quand ce serait fini, il foulerait une fois encore les ponts de Parangon. Ce serait le dernier adieu, en quelque sorte.
« Yala !»
Il se félicita que sa voix résonne claire et forte malgré les trépidations de son cœur.
Les serpents ont fait leur part, et ils ont affaibli et démoralisé l'ennemi. Prépare les hommes au combat. Je dirigerai le détachement d'abordage.
Brachen aurait dû remarquer que, en dépit des rugissements et des violents éclaboussements, les serpents n'attaquaient pas Vivacia. Il aurait dû remarquer le mouvement discipliné des pirates qui se massaient le long des garde-corps, tandis que Parangon élongeait le navire. Il aurait dû garder les yeux rivés sur le vaisseau de Kenneth, au lieu de chercher du regard le corps d'Althea dans la mer. Il aurait dû savoir qu'un pavillon parlementaire n'était qu'un bout de chiffon blanc pour le roi pirate.
Les premiers grappins heurtaient le pont du Parangon, que Brachen se croyait encore hors de portée de ses engins. D'une voix furieuse, il donna l'ordre de les rejeter quand un rang d'archers s'aligna avec précision à la lisse de Vivacia. Les flèches volèrent, des hommes tombèrent. Ceux qui avaient échappé au venin des serpents mouraient de mort violente, et Brachen chancelait, horrifié par sa propre incompétence. D'autres grappins suivirent. Les navires furent halés à couple, et une vague d'abordage s'affala depuis le gréement sur le pont de Parangon. Subitement, les pirates furent partout, ils escaladaient les garde-corps, affluaient sur les ponts comme une déferlante. Les défenseurs furent repoussés, rompirent leurs rangs pour former de petits noyaux d'hommes se battant désespérément pour leur vie. Parangon braillait, poussait et parait des bottes avec son bâton qui ne rencontrait que le vide. Dès l'instant où furent lancés les premiers grappins, la victoire était inconcevable. Les ponts absorbaient le sang des mourants, le navire rugissait devant l'ampleur des pertes, mais pire que tout, le bruit qui atteignait les oreilles de Brachen, le sifflement impitoyable du vent dans la mâture, c'était la voix de Vivacia, qui criait dans un langage humain et non humain et qui encourageait les pirates. Il se félicita presque qu'Althea ait péri, avant d'avoir vu son propre navire se retourner contre eux. L'équipage se battit avec bravoure en pure perte. Ils étaient inférieurs en nombre, inexpérimentés, certains étaient déjà blessés. Le petit Cliff resta aux côtés de son capitaine, un couteau dans sa main valide, tout au long de cette lutte brève et navrante. Alors que la vague des assaillants les engloutissait, Brachen tua un homme, puis un second, et Cliff en défit un autre en lui tranchant les jarrets, mais, pour récompense de sa bravoure, il gagna une méchante estafilade sur les côtes. Les pirates enjambaient simplement les corps de leurs camarades, l'âme à nu. De sa main libre, Brashen attrapa le gamin au collet et le poussa derrière lui. Ensemble, ils reculèrent, luttant seulement pour leur vie, et réussirent à atteindre le gaillard d'avant. Le capitaine baissa les yeux vers le pont où s'entassaient les corps. Les pirates maîtrisaient le carnage. Ces hommes en étaient réduits à se défendre ou à détaler comme des rats en grimpant dans le gréement où les forbans les pourchassaient en riant. Brashen avait cru avoir un meilleur aperçu du combat et donner des ordres pour reformer les rangs, mais un seul coup d'œil lui prouva qu'il n'y avait plus qu'un moyen de les sauver. Ce n'était plus une bataille, c'était un massacre. « Pardon, » dit-il au petit garçon à côté de lui qui perdait son sang. « Je n'aurais jamais dû te laisser venir avec moi. » Il haussa la voix.
« Pardon, Parangon. Pardon de t'avoir amené si loin, d'avoir fait naître en nous tant d'espoir pour finir de cette façon. J'ai failli à mon devoir envers vous deux. J'ai failli à mon devoir envers tous. »
Il respira à fond et hurla les mots odieux.
« Je me rends ! Quartier à l'équipage ! Le capitaine Brashen Trell de la vive nef Parangon se rend à vous !»
Il fallut un moment pour que ces paroles percent le fracas de la bataille. Le ferraillement des épées se tut peu à peu, mais les gémissements des blessés se prolongèrent. Fendant le chaos, la moustache crânement retroussée, sans une tache de sang ou de sueur, s'avançait sur une seule jambe un homme qui ne pouvait être que le capitaine Kenit.
« Déjà ? »
demanda-t-il sèchement.
Il montra d'un geste son épée au fourreau.
« Mais, mon bon monsieur, je viens seulement d'aborder. Êtes-vous certain de vouloir vous rendre ?»
Il regarda autour de lui les petits groupes épars de survivants. Les armes à leurs pieds, ils étaient encerclés de lames menaçantes. Le sourire du pirate était éclatant et sa voix charmante quand il proposa
« Je suis sûr que mes gars seraient prêts à les laisser ramasser leurs armes pour essayer. C'est dommage d'échouer du premier coup. C'était bien votre premier coup, n'est-ce pas ?»
Les rires qui accueillaient chacune de ces saillies fouaillaient Brashen comme des flammes dévorantes. Il baissa la tête pour éviter les regards désespérés de son équipage et surprit les yeux de Cliff levés vers lui, pleins de larmes, remplis d'angoisse. Il protesta.
« Je me serais pas rendu, capitaine. J'aurais mort pour vous. »
Brashen laissa tomber son arme. Il posa la main sur la tête blonde du garçon.
« Je sais. C'est justement ça que je craignais. »
Alors, une fin propre, somme toute. Beaucoup plus propre qu'il ne s'y attendait, étant donné toutes les anicroches que son plan original avait subies. Kenit ne se donna même pas la peine de s'avancer pour accepter l'arme du capitaine. Le rustre l'avait lâché sur le pont de toute façon. Il n'avait donc pas la moindre notion des bonnes manières. Ce n'est pas qu'il redouta de mettre le pied sur le gaillard d'avant. L'équipage était efficace. Les hommes étaient restés trop longtemps sans se battre pour de bon. Cette escarmouche avait à peine aiguisé leur appétit qu'elle avait déjà pris fin. Il faudrait qu'ils pourchassent un ou deux transports d'esclaves pour leur permettre de s'en donner à cœur joie. Pour l'heure, il ordonna qu'on enferme les survivants dans la cale. Ils obéiraient assez docilement car ils espéraient que leur capitaine serait convoqué afin de négocier les termes de la rançon. Quand ils furent hors de vue, il fit jeter les cadavres par-dessus bord. « Les serpents, » remarqua-t-il avec dédain, « ne se firent pas prier pour venir chercher cette nourriture facile qu'ils avaient refusé de tuer eux-mêmes. Eh bien, soit, qu'ils croient donc à la générosité de Foudre. Peut-être qu'en les engraissant avec un ou deux transports d'esclaves, il leur rendrait leur docilité. » Le problème d'Althea fut réglé sans difficulté. Il n'y avait pas de femme à bord, vivante ou morte. Aux questions angoissées du capitaine Trell qui demandait si la Vivacia avait pris des survivants du canot, Kenit se borna à répondre d'un haussement d'épaule. Si elle s'était trouvée dans la malheureuse embarcation, alors elle n'avait pas réussi à regagner le navire. Et il poussa un petit soupir qui exprimait peut-être un certain soulagement. Il avait vraiment horreur de mentir à Yémin. C'est en toute bonne conscience qu'il pourrait hausser les épaules et dire qu'il n'était pour rien dans son malheur.
Trelle avait plissé les yeux quand Kenneth l'avait sommé de descendre à fond de cale, mais il s'était exécuté. Il n'avait guère le choix avec trois lames pointées sur lui. Le panneau d'écoutille avait étouffé ses cris de colère. Kenneth commanda à ses hommes de regagner la vivacia, en retint discrètement trois qui avaient l'ordre de revenir avec des barils d'huile de lampe. Ils le regardèrent, mais ne discutèrent pas. En les attendant, il fit tranquillement le tour des ponts. Son propre navire bourdonnait, tout à la joie de la victoire, tandis que celui-ci résonnait de cris étouffés en bas. Quelques-uns parmi les hommes qu'on avait fait descendre étaient gravement blessés. Eh bien, ils ne souffriraient pas longtemps. Sur le pont étaient dessinées des silhouettes sanglantes. Le sang marquait les bordages récurés. Quel dommage! Ce capitaine Trell avait bien entretenu son navire. Kenneth n'avait jamais vu Parangon aussi reluisant. Ygrot avait commandé un coquet petit navire, mais il n'était pas porté sur l'asticage. Le vaisseau de son père avait été aussi encombré que sa maison. Kenneth se dirigea vers la chambre du capitaine et s'arrêta à la porte. Un étrange émoi lui faisait palpiter le cœur. Heureusement, le charme à son poignet était silencieux. Il refit un tour sur les ponts. Les hommes sous les panneaux de cale se calmaient. Bien. Ces trois matelots revinrent, chacun chargé d'un baril d'huile.
Aspergez partout, les gars. Gréement, rouf, pont. Ensuite, vous retournerez au navire.
Il les regarda gravement, s'assurant que chacun prenait ses paroles au sérieux.
Je serai le dernier à quitter ce vaisseau. Faites votre travail effilé. Larguez les amarres, laissez seulement un filin à l'arrière. Sur notre navire, tout le monde en bas. Compris? Tout le monde. J'ai une dernière chose à faire seul.
Ils acquiescèrent avec force Courbette et s'éloignèrent. Kenneth se tint à l'écart en attendant qu'ils aient terminé leur besogne. Quand le dernier baril vide roula sur le pont, il leur signifia de s'en aller. Enfin, ce qu'il n'avait pas fait depuis plus de 30 ans, il avança en luttant contre le vent violent et se campa sur le pont en contemplant la tête baissée de Parangon. Si la vive nef avait levé les yeux vers lui, si Kenneth avait dû rencontrer un regard furieux, provoquant, triste ou ravi, il n'aurait pas pu parler. Mais quelle sottise! Parangon ne pouvait lever vers lui aucun regard. Ygrot y avait veillé voici longtemps. Kenneth avait manié la hachette, debout sur les grandes mains pour atteindre la figure de son navire. Ensemble, ils avaient enduré cela parce qu'Ygrot avait menacé de faire mourir le garçon s'il ne s'exécutait pas. Ygrot s'était tenu sur ce même pont, là où se tenait maintenant Kenneth, et avait regardé en riant le petit accomplir sa sale besogne. Parangon avait déjà tué deux bons matelots qu'Ygrot avait envoyés pour aveugler la figure de proue. Mais il ne ferait pas de mal au petit garçon, oh ça non. Il supporterait la douleur. Et même il tiendrait l'enfant assez près pour lui faciliter la tâche, puisqu'Ygrot avait promis de lui laisser la vie. Alors, après avoir une dernière fois plongé tout au fond des yeux noirs, Kenneth les avait détruits à coups de hachette. Et il avait compris qu'il ne fallait jamais aimer rien ni personne aussi profondément. Qu'il ne fallait pas avoir un cœur aussi fidèle. Il avait su alors que jamais, jamais, il n'aimerait rien ni personne comme Parangon l'aimait, lui. Il se l'était juré, puis il avait levé la hachette brillante et entamé les yeux sombres débordant d'amour pour lui. En dessous, il n'y avait rien, ni chair, ni sang. Seulement du bois gris-argent qui éclatait facilement sous sa petite hache. On lui avait dit que le bois sorcier était parmi les bois les plus durs dont on construisait les navires, mais il le coupa comme s'il s'agissait de coton. Les équilles et les fragments tombaient sous ses pieds nus dans la mer profonde et glaciale. Petit pied froid, si calleux dans la paume tiède. La force redoublée du souvenir mutuel le brûla comme un fer rouge. Kenneth se rappelait sa vision qui se détachait de lui par morceaux. Non comme un homme qui perdrait la vue, mais plutôt comme si on avait découpé une image devant ses yeux, le laissant dans le noir. Tout de suite après, il se mit à trembler, fut saisi de vertige. Quand il se ressaisit, il se cramponnait au parapet. Grave erreur.
Il n'avait pas voulu avoir le moindre contact avec le navire, le toucher de ses mains nues, et pourtant voilà,
rivé à nouveau, lié par le sang et les souvenirs.
Parangon. Il prononça le nom à mi-voix.
Le navire tressaillit mais ne releva pas la tête.
Un long silence les enveloppa. Puis...
Kenit, Kenit, mon petit.
Sa voix grave et douce était étranglée.
Incrédule, il reconnaissait le jeune garçon. Et cette émotion-là submergea toutes les autres.
J'étais si furieux contre toi,
dit le navire sur un ton contrit et émerveillé.
Pourtant tu es là, avec moi, et je ne peux même pas concevoir être en colère contre toi.
Kenit se racla la gorge. Il lui fallut un peu de temps avant de pouvoir articuler.
Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici. Jamais je n'aurais cru te reparler encore une fois.
Comme une marée, l'amour montait de la vive nef. Il lutta pour rester séparé de Parangon.
Ce n'est pas ce dont nous étions convenus, navire. Ce n'est pas du tout ce dont nous étions convenus.
Je sais.
Parangon avait les mains plaquées sur sa figure. La honte qui l'envahit atteignit aussi Kenit.
Je sais, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé.
Que s'est-il passé? Malgré lui, Kenit s'exprimait avec douceur. Il ne voulait pas savoir. La voix profonde de Parangon lui rappelait l'épaisse mélasse sur les gâteaux le matin, les chaudes journées d'été où il courait pieds nus sur ses ponts et sa mère qui suppliait son père d'obliger leur fils à la prudence. Les souvenirs, tous ces souvenirs s'étaient imprégnés dans le bois de ce navire, remontaient et saignaient en lui.
J'ai sombré et je suis resté au fond, c'est vrai. En tout cas, j'ai essayé. J'ai eu beau laisser l'eau pénétrer, je n'ai pas pu couler tout à fait. Mais je suis resté dessous, je suis resté caché. Des poissons et des crabes sont venus. Ils ont nettoyé ma carcasse, je me sentais purifié. Tout était silencieux, froid, liquide. Alors, les serpents sont arrivés. Ils m'ont parlé. Je savais que je ne pouvais pas les comprendre, mais ils affirmaient que si. Ils m'ont poussé, donné des bourrades, posé des questions, exigé des choses. Ils voulaient des souvenirs. Ils me demandaient des souvenirs. Mais j'ai tenu la promesse que je t'avais faite. J'ai gardé tous nos souvenirs secrets. Ça les a enragés. Ils m'ont maudit, m'ont accablé de sarcasme et j'ai été obligé, tu comprends? Je savais qu'il fallait que je sois mort et oublié de tous, mais ils n'ont pas voulu me laisser être mort et oublié. Sans arrêt, ils m'obligeaient à me souvenir. La seule façon que j'avais de tenir ma promesse, c'était d'émerger, et alors, je ne sais pas comment, j'étais de nouveau à Terrilleville. Et là, on m'a redressé. Et j'ai eu peur qu'on me remette à naviguer, mais on m'a allé sur la plage, on m'a enchaîné là. Alors je ne pouvais pas être mort. Mais j'ai fait de mon mieux pour oublier. Et pour qu'on m'oublie.
Le navire poussa un soupir saccadé.
Et pourtant, tu es ici,
repartit Kenit.
Et en plus avec des gens qui m'auraient tué dans mes propres eaux.
Pourquoi, navire? Pourquoi m'as-tu trahi ainsi?
Une véritable souffrance perçait dans sa voix quand il demanda.
Pourquoi nous forces-tu à revivre tout cela?
Parangon saisit sa barbe par poignée et tira dessus.
Pardon, pardon,
dit-il en pleurant. Une voix contrite de petit garçon s'échappait de façon saugrenue de ses lèvres barbues.
Je ne voulais pas. Ils ne sont pas venus pour te tuer. Ils disaient qu'ils voulaient seulement reprendre le navire d'Altea. Ils allaient te proposer de te racheter, Vivacia, Je savais qu'il n'avait pas assez d'argent, mais à un moment, j'ai espéré que, quand tu me verrais, tu voudrais me reprendre, que peut-être tu voudrais refaire du commerce avec moi. »
La voix montait à présent jusqu'à vibrer de colère. Le saisissement provoqué par la présence de Kinnit se dissipait peu à peu.
« J'ai cru que peut-être, quand tu me verrais propre et bien armé, en naviguant bien d'aplomb, tu voudrais me reprendre. J'ai cru qu'un lutte-chance pourrait avoir envie de la vive nef de sa famille au lieu de celle qu'il a volée. Alors, j'ai appris de la bouche d'un pirate que tu avais toujours désiré une vive nef comme elle, qui soit à toi. Mais tu en avais une, moi, et tu m'as écarté. Tu m'as ordonné d'être mort et oublié. Et j'ai accepté. J'ai promis de mourir et d'emporter avec moi les souvenirs. Tu te rappelles cette nuit-là? La nuit où tu as affirmé que tu ne pouvais pas vivre avec ces souvenirs, que tu devais te tuer parce que tu ne pouvais continuer? Et c'est moi qui ai eu l'idée. C'est moi qui ai dit que je prendrais tous les souvenirs douloureux, les mauvais, même les bons d'une époque qui ne reviendrait jamais, je les prendrais, et je mourrais pour que tu vives et que tu en sois délivré. Et j'ai réfléchi à la façon dont on pourrait en finir avec eux. Je les ai tous emportés avec moi, tous ceux qui savaient ce qu'on t'avait fait. Tu te rappelles? J'ai purifié ta vie pour que tu puisses continuer à vivre. Et tu as assuré que tu n'aimerais jamais un autre navire comme tu m'as aimé, que tu ne voudrais jamais aimer un autre navire comme nous nous sommes aimés. Tu ne te rappelles pas?
Le souvenir brûla Kenneth depuis ses mains crispées jusqu'à son âme tremblante et s'installa en lui. Il avait oublié à quel point les souvenirs pouvaient faire mal.
« Tu as promis... »
continua Parangon d'une voix chevrotante.
« Tu as promis, et tu n'as pas tenu parole, comme moi. Alors, nous sommes quittes. »
Quittes. Une notion enfantine. Mais Parangon avait toujours eu une âme d'enfant, l'âme d'un enfant délaissé, abandonné. Seul, peut-être, un autre enfant aurait pu gagner son amour, son amitié comme Kenneth l'avait fait. Seul un enfant maltraité et négligé comme Parangon aurait pu se tenir aux côtés de Kenneth durant cette longue période du règne d'Ygrotte. Mais Parangon était resté un enfant, avec une logique d'enfant, alors que Kenneth, lui, avait grandi, était devenu un homme. Un homme est capable de regarder en face de dures vérités. Il sait que la vie est rarement équitable et juste. Et une autre dure vérité, la plus courte distance entre un homme et son but est souvent un mensonge.
Tu crois que je l'aime?
Kenneth était incrédule.
Comment le pourrais-je? Parangon, elle n'est pas de mon sang. Qu'avons-nous à partager? Des souvenirs? Je ne peux pas. Je te les ai déjà tous confiés. Tu as gardé mon cœur, navire. « Depuis toujours. Je t'aime, Parangon. Toi seul, navire. Je suis toi, et tu es moi. Tout ce que je suis ou ce que j'étais est enfermé à l'intérieur de toi, en sûreté, scellé.
À moins que tu ne l'aies divulgué à d'autres ?» fit Kenneth avec circonspection.
« Jamais !»
déclara pieusement le navire.
Bien, c'est bien, pour le moment. Mais nous savons tous deux qu'il n'y a qu'un moyen de sceller à jamais ces souvenirs. Un seul moyen de cacher nos secrets.
Un silence suivit ces paroles. Kenneth le laissa se prolonger. Un calme grandissait en lui, une certitude. Il n'aurait jamais dû douter de Parangon. Son navire lui était fidèle depuis toujours. Il saisit cette pensée, la laissa croître dans son cœur, il se baigna dans sa chaleur et partagea avec Parangon ce sentiment de sécurité. Pour cette unique fois, il se laissa aller à aimer le navire comme autrefois. Il l'aima avec la foi absolue que Parangon déciderait ce qui était le mieux pour Kenith.
« Et mon équipage ?»
demanda le navire d'un ton las. « Prends-les avec toi, » suggéra doucement le pirate.
« Ils t'ont servi du mieux qu'ils ont pu. Garde-les à l'intérieur de toi à jamais. Tu ne seras pas séparé d'eux. »
Parangon respira.
« Ça ne leur plaira pas. Aucun d'eux n'a envie de mourir. »
« Bien. Mais toi et moi, nous savons que mourir ne dure qu'un petit instant pour les humains. Et ils s'en remettront. »
Le navire hésita davantage cette fois.
« Je ne sais pas si je peux vraiment mourir, tu vois. »
Quelques secondes.
La dernière fois, je n'ai même pas pu rester au fond. Le bois exige de flotter, tu sais.
Une pause plus longue.
Et Brachen est enfermé en bas aussi. Je lui ai fait une petite promesse, Kenith. Je lui ai promis que je ne le tuerai pas.
Kenith fronça les sourcils pensivement, en laissant Parangon percevoir ses réflexions sur la question. Enfin, il proposa avec bonté.
« Tu veux que je t'aide ? Alors tu ne manqueras pas à ta promesse. Tu n'y seras pour rien. »
Cette fois, le navire tourna vivement sa grande tête vers Kenith. Le vide de ses yeux absents semblait le considérer. Le pirate scruta les traits qu'il connaissait comme les siens. La tête hirsute, le front haut, le nez fort au-dessus des lèvres fines, le menton barbu. Parangon. Son Parangon ? Le plus fin d'entre les navires. Son cœur se gonfla douloureusement d'amour pour son navire. Des larmes de compassion pour eux deux lui brûlèrent les yeux.
« Tu pourrais ?»
implora Parangon à mi-voix.
« Bien sûr que je pourrais. Bien sûr. »
dit Kenith sur un ton réconfortant. Après que Kenith eut quitté ses ponts, le silence se déversa en lui et le remplit. Ce n'était pas un silence de l'ouïe, c'était un silence du cœur. Et il y avait d'autres bruits dans le monde. Les cris anxieux de l'équipage à l'intérieur de ses cales condamnées, la trompette des serpents, les vents qui se levaient, les petits bruits de l'aussière qu'on larguait, le crépitement des flammes qui conversaient entre elles. Et il se balança, librement, soudain, dans une saute de vent. Personne à la barre pour le gouverner, tandis que la tempête qui se préparait masquait ses voiles déchiquetées par le venin. Et il y eut un brusque appel d'air, puis une explosion de chaleur, quand les flammes s'élancèrent sur le gréement. Avec un pied plus sûr que le meilleur des gabiers, le feu se déploya, dévorant la toile et léchant le bois. Et il devrait être patient. Il faudrait du temps pour que l'incendie se propage. Le bois sorcier ne s'enflammait pas facilement, mais une fois que le feu avait pris, il était presque impossible de l'éteindre. Le bois ordinaire du rouf et du gréement brûlerait d'abord, et enfin le bois sorcier. Patience. Et il avait appris la patience. Il savait attendre. La seule chose qui lui faisait perdre sa patience, c'était l'équipage. Les hommes dans la cale tambourinaient sur les panneaux d'écoutille. Ils le sentaient dériver, sans doute. Peut-être percevaient-ils la fumée. Il reporta résolument ses pensées sur des choses plus importantes. Son garçon était un homme aujourd'hui. Kenith s'était bien développé. Il était grand, à en juger par la direction de sa voix. Et fort. L'étreinte de ses mains sur la lisse avait été forte et virile. Parangon secoua la tête, plein d'un tendre orgueil. Il avait réussi. Le sacrifice n'avait pas été vain. Kenith était devenu l'homme dont ils avaient tous les deux rêvé. Étonnant comme le son de sa voix, le contact de sa main, son odeur même dans la brise, avait tout ramené d'un coup. Tout ce qu'il avait perdu lui avait été rendu en présence de Kenith, et le son de sa voix quand il avait dit « Parangon, avait effacé tous les affronts imaginaires et les avanies accumulées qui avaient rendu le navire furieux contre lui. Furieux contre lui ? L'idée même lui paraissait insensée maintenant. Furieux contre le seul être qu'il ait jamais aimé de tout son cœur ? C'était incompréhensible. Oui, Parangon s'était sacrifié pour lui, mais qu'aurait-il pu faire d'autre ? Il fallait bien que quelqu'un délivre Kenith. Lui, il l'avait fait. Il avait réussi, et son petit garçon allait régner, être le roi des îles des pirates. Et un jour, comme ils l'avaient prévu tous les deux, Kenith aurait un fils qu'il appellerait Parangon. Un jour, il y aurait un Parangon Luchance qui serait aimé et chéri. Peut-être y en avait-il déjà un ? Parangon regretta désespérément de n'avoir pas demandé à Kenith s'il avait un fils. Quel réconfort il aurait éprouvé à savoir que l'enfant qu'ils avaient imaginé était réel. En bas, à l'intérieur, les hommes d'équipage avaient arraché quelque chose qu'ils utilisaient comme bélier pour défoncer le panneau d'écoutille. Ils ne paraissaient pas y mettre beaucoup d'énergie. Peut-être la cale était-elle remplie de fumée. Parfait. Ils pourraient tous s'endormir et mourir. Parangon soupira et se laissa aller à prendre de la gîte, juste un peu, comme à son habitude quand il était distrait. Ce n'était pas sa faute s'il était gitard. C'était un défaut de construction. La chose était prévisible chez un navire constitué de deux fûts différents de bois sorcier. Un dragon essayait toujours de dominer l'autre. Lutter, 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 c'était tout ce qu'il faisait, jusqu'à ce qu'il en ait assez de s'acharner à comprendre ces différents mois. Il les avait repoussés tout au fond de lui et avait décidé d'être simplement Parangon. Parangon Luchance. Il prononça le nom tout haut, mais doucement. Il referma la bouche. Il arrêta de respirer. Il n'était pas vraiment obligé de respirer. Le souffle faisait seulement partie de la forme qu'on lui avait donnée. Cette forme, il pouvait la changer s'il y pensait en se concentrant. Chaque bordée bien ajustée de bois sorcier pouvait bouger un petit peu. Pendant un moment, il ne sentit rien. Puis, à l'intérieur de lui, il reconnut le miroitement de l'eau qui suintait, le froid qui s'écoulait lentement le long des vègres. Lentement, toujours si lentement, il s'alourdit. Il accentua sa gîte. Les hommes à l'intérieur commençaient à s'en apercevoir, et il y eut des cris, une cavalcade, ils couraient pour essayer de découvrir la voie d'eau. Toutes les coutures faisaient haut à présent. La seule question était de savoir qui du feu ou de l'eau aurait d'abord raison de lui. Sans doute un peu des deux, pensa-t-il placidement. Mais ce ne serait pas sa faute. Il croisa les bras sur sa poitrine, fit face à la tempête menaçante et se prépara à la mort.
J'ai pensé que vous voudriez décider vous-même, commandant.
Yola se tenait très raide. Il savait qu'il se risquait en terrain dangereux, mais il était suffisamment avisé pour comprendre que ne pas en référer à Kenith aurait été plus dangereux encore. Pourtant, Kenith aurait préféré que le second les laissât se noyer, bien proprement. Et il s'accouda à la lisse et baissa les yeux vers la femme en bas. Ses cheveux blonds flottaient autour d'elle comme un banc d'algues. L'eau glacée l'éprouvait durement, tout comme la houle qui grossissait. Bientôt ce serait fini. Tandis qu'il regardait, une vague la balaya, l'enfonça en déferlant. Chose étonnante, sa tête réapparut. Elle se débattait dans l'eau comme un chien. Elle aurait pu durer plus longtemps si elle avait lâché son compagnon. Le petit gars dans ses bras paraissait mort de toute façon. Curieux cette obstination chez les mourants. La femme pâle dans l'eau roula la tête en arrière et toussa.
« S'il vous plaît !»
Il n'entendit pas les mots. Elle était trop faible pour crier, mais il avait lu sur ses lèvres.
« S'il vous plaît !»
Kenith se gratta la barbe pensivement.
« Elle vient du Parangon, » dit-il à Yola. « Sans aucun doute !»
approuva le second en grinçant des dents. Qui aurait jamais cru qu'il puisse être à ce point angoissé de voir une femme se noyer ? Kenith ne cessait de s'étonner des étranges faiblesses qui battent en brèche le caractère d'un homme.
« Tu crois qu'on devrait la remonter ?»
Le ton de sa voix indiquait clairement qu'il ne laissait pas le second décider, mais qu'il cherchait à connaître son avis.
« Nous sommes pressés par le temps, tu sais.
Les serpents sont déjà partis. »
En réalité, c'est Foudre qui leur avait ordonné de partir. Kenith avait été soulagé de constater qu'elle avait encore un peu d'autorité sur eux. Leur refus de couler Parangon l'avait fortement ébranlé. Seul le serpent blanc avait bravé les ordres de Foudre. Il continuait à tourner autour du navire, ses yeux rouges singulièrement accusateurs. Kenny découvrit que cela ne lui plaisait pas du tout. Il était mécontent que le serpent n'ait pas dévoré les deux survivants, ce qui lui aurait épargné ce souci. Mais non, il traînait là, dans l'eau, et les observait avec curiosité. Pourquoi n'avait-il pas obéi au navire? Il détourna les yeux et se força à revenir au problème immédiat. Foudre avait déclaré qu'elle ne désirait pas assister à l'incendie de la vive nef. Kenith leva les yeux vers le ciel de tempête. Quitter cet endroit lui convenait aussi.
« C'est ce que vous voulez ?»
dit le second en finassant. Il baissa dans l'estime de Kenith. Tout sot qu'il était, Sorcor aurait eu le courage d'exprimer son opinion. On ne pouvait même pas porter cette qualité à l'actif de Yola. Le capitaine lança un nouveau coup d'œil à l'arrière. Le Parangon flambait allègrement à présent. Une bourrasque de vent lui apporta la fumée et la puanteur. Il était temps de partir. Il voulait quitter les parages du navire. Il s'attendait que la figure de proue se mette à hurler avant la fin, mais ce n'était pas la seule raison. Il y avait aussi le risque que le vent emporte des fragments de toile enflammés jusqu'à Vivacia.
« Dommage que nous soyons aussi pressés, » déclara-t-il. Mais l'ordre de mettre les voiles s'étouffa dans sa gorge.
La femme blonde s'était laissée aller en arrière, révélant ainsi les traits du gamin dont elle soutenait la tête hors de l'eau.
« Yéma ! »
s'exclama-t-il, incrédule. Par quel hasard malheureux, Yéma était-il tombé à l'eau ? Comment se faisait-il qu'elle soit venue à son secours ?
« Remontez-les immédiatement ! »
ordonna-t-il à Yola. Alors que le second bondissait pour exécuter son ordre, une vague souleva légèrement les deux naufragés. Ce n'était pas Yéma. Ce n'était pas un homme. Pourtant, la ressemblance frappante de cette femme avec le garçon étreignit Kenith, et il ne donna pas de contre-ordre. Yola criait déjà qu'on jette un filin.
« Tu savais que ce devait être elle, » murmura le charme à son poignet. « Althea Vestrit, qui d'autre peut lui ressembler à ce point ? Foudre ne sera pas contente, tu sers ton propre intérêt, pas le sien. Tu amènes à bord la seule personne que tu aurais dû absolument tuer. »
Kenith claqua sa main sur la mulette sans tenir aucun compte des contorsions du petit visage sous sa paume. Il resta là à observer avec une curiosité croissante tandis qu'on jetait le filin. La femme blonde l'attrapa, mais ses mains engourdies ne purent le tenir. Un marin dut enjamber le bord, pénétrer dans l'eau froide, il enroula le cordage autour des deux femmes, fit un nœud sommaire.
« Is !»
cria-t-il, et on les hissa, les femmes molles comme des algues. Kenny demeura là jusqu'à ce qu'on les dépose sur le pont. La ressemblance était surnaturelle. Il scruta avidement ses traits. Une femme qui avait le visage de Yéma. Une Vestrite. Et il se rendit compte qu'il la dévisageait. Et il s'aperçut aussi du silence perplexe de ces hommes qui s'étaient rassemblés autour de la femme étendue.
« Eh bien, faites-les descendre. Il faut tout vous dire. Et Yola, mets le cap sur partage. Fais signe à la Marietta de nous suivre. Un bon coup de tabac se prépare. Je veux être en route avant qu'ils s'abattent sur nous. »«
Commandant, devons-nous attendre que Yéma et Ta nous rejoignent avant de partir ?»
Il jeta un coup d'œil à la femme brune qui commençait à tousser et à bouger.
« Non, » répondit-il distraitement. « Pas maintenant. Laisse-les où ils sont pour le moment. »